Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes dans les guidons de l'info ce soir, en compagnie de trois hommes motards, puisque notre ami Jacinthe est très très loin d'ici. D'ailleurs, si tu nous entends, on t'embrasse, Jacinthe. J'ai à mes côtés notre The Pat National. Salut, ouais, The Pat.
Bonsoir tout le monde, salut les motards. Salut Jacinthe, toi qui es au pays où il cherche encore une pucelle.
Elle me disait que apparemment elle avait des problèmes informatiques, donc il se peut qu'elle nous entende pas. Et notre nouvel ami qui vient nous voir depuis quelques semaines déjà, Yves, salut à toi.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
Mais ça y est, il fait partie de la maison.
Et ouais. Et d'ailleurs, il commence à parler beaucoup plus fort que d'habitude.
Ouais, ça vient petit à petit, sur mon ton.
Il s'habitue à la position du micro. Alors ce soir, on a quelques... Non ? Un technicien qui nous dit qu'il faut que tu pousses encore un peu plus la voix. Voilà, t'es bien cassé d'entrée. Tu nous feras d'ailleurs le billet d'humeur ce soir.
Oui, exactement. Donc aujourd'hui, mon billet d'humeur, c'est sur les rehausseurs, notamment, je sais pas si c'était la Dieu Pantal, donc direction Moissac en quitte Toulouse. Ils sont en train de refaire la chaussée, ce qui est une bonne chose. Donc, par contre, quand on roule de nuit, malheureusement, les rehausseurs, vu qu'il n'y a aucune signalisation, vu qu'ils sont encore en travaux, on les voit pas. Ce qui fait que...
Surprise.
Voilà, ouais. C'est la surprise. C'est même en roulant à 40 à l'heure, en faisant attention, on ne peut pas les voir à moins d'être dessus et d'avoir déjà bien décollé, quoi.
Et c'est un endroit, je suppose, qui est pas éclairé.
Voilà, c'est un petit village, donc il y a quelques loupiottes, mais c'est quand même pas. Puis même le bitume étant bien noir en pleine nuit, bon, une moto c'est quand même pas aussi mieux qu'une voiture. C'est impossible à voir, même sur le retour, sachant qu'ils étaient là, je les ai guettés, je me suis fait surprendre. Donc bon, évidemment, vu qu'ils ont pas le temps de peindre, on peut comprendre que ce soit pas signalé, mais peut-être qu'un petit cône ou un petit quelque chose, ça pourrait éviter, je pense, une mauvaise surprise, quoi.
C'est vrai qu'on retrouve ça un peu dans pas mal de petits villages. Bon, j'en connais, moi, quelques-uns sur la vallée de la Lèze. Qui, bon, les travaux sont finis depuis 2-3 mois déjà. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas pris le temps d'installer le petit panneau bleu avec la petite montagne d'Odane.
La petite montagne.
La petite montagne, ouais.
À l'aise,
De Dan, quelques cinquantaines de mètres avant, quoi. Il y a ça, il y a également,
s'il commence à mettre des cônes, il va avoir tous les rastas du coin et tout.
Oui, en plus, les cônes, ça se vole. Bon, ça se fume, et donc, du coup.
C'est le bordel.
Ça marche pas. Il y a les ronds-points, effectivement, aussi, où il y a eu des travaux. Bon, j'en connais un qui est comme ça à Launaguet. Les travaux sont finis depuis un bon moment, mais tous les gravillons des travaux sont restés en fait juste à la sortie que je prends, moi, du rond-point. Ce qui fait que la première fois, c'est vrai que j'ai été surpris parce que bon, c'est un tout petit rond-point. J'ai tendance à le prendre doucement, mais en virage très serré, tu vois. Donc ma moto est inclinée pas mal et je redresse pour ressortir. Je signale que je suis quand même à 20-25 km/h en faisant ça.
Ouais, c'est la vitesse où tu tombes d'habitude.
Et donc voilà, à la sortie, t'as des gravillons qui sont pas signalés avant. Enfin, il y a pas de signalisation de travaux non plus.
Oui, bon, un coup de balai.
Ça, c'est facile. Bon, ça fait 3 semaines que c'est encore là. Ça fait beaucoup.
Ils sont très attachés à ces petits gravillons. Ils sont restés là pendant le temps qu'ils ont mis les travaux, qui ont duré au moins un an.
Non, mais ils savent que je passe là-bas tous
les
soirs.
C'est exprès,
en fait,
à mon avis. Ils ont vu que tu avais fait une décoration particulière au carénage côté gauche. Ils se disent, tiens, on va lui faire la même à droite.
Mais il faut
c'est au moment où tu sors du rond-point que tu es sur les gravillons.
Et donc voilà, c'est en tournant à droite, du coup, que je pourrais éventuellement tomber sur le côté droit.
Toi, comme ça, tu fais un équilibre.
Et me faire un petit œilleton supplémentaire.
C'est pas si mal.
Comme ça fera un peu tête de requin, une moto tête de requin avec deux yeux noirs sur chaque côté.
Mmh. Non, c'est original. C'est un style, quoi.
Bof, ouais. À la limite, je préfère, comme tu m'as proposé, acheter un café,
un street bike. Un street bike, ouais, ça coûte beaucoup moins cher en carénage.
Sans carénage.
Par contre, c'est plus cher en carter.
Ouais.
On peut pas tout avoir.
Tu fais des protèges carter?
Non, sinon tu gardes les protections de moto-école. Hein.
Ouais, aussi, c'est une idée, ouais.
Ok, donc tu nous rappelles juste l'endroit où il faut faire attention.
Donc c'est à Dieu Pantal, lorsque tu sors de
Dieu Pantal.
Ouais.
Dieu Pantal.
Non, Dieu Pantal, je crois que c'est le nom.
Dieu Pantal.
Quand tu sors de.
Quand tu sors de Toulouse et que tu vas vers Moissac, quoi.
Moissac. D'accord. Ouais. En direction de Moissac, faites gaffe, donc risque de rencontre
des troisième type
de Dodane.
Ceci dit, il y a une très belle photo du Tourist Trophy en 64, je crois, où t'as Agostini avec la R4 en l'air et tout comme ça, la photo elle est super. Juste avant en plus le virage où il y a la cabine téléphonique, qui est aussi un endroit qui a été très photographié sur le Tourist Trophy.
D'accord.
Avec un peu de chance, tu décolles et si tu n'arrives pas à te reposer trop tôt, bah tu te prends la cabine.
Sympathique. Ah, c'est sur un virage en plus.
C'est juste avant un virage, c'est un passage à niveau en fait.
D'accord.
Et tu sais, comme tout bon passage à niveau, partout dans le monde, apparemment, il y a un dénivelé.
D'accord.
Et comme eux, ils arrivent quand même comme des brutes. Tu vois, ils roulent mine de rien au Tourist Trophy. Je crois qu'ils sont autour de 180 de moyenne. Mm-hmm. Sur une route de bord de mer, d'une petite île. 180 de moyenne sur 60 km. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça doit quand même astiquer. Hein.
Oui.
Et c'est des très belles photos. Il y a Michael Wood aussi qu'on voit. Enfin,
où est-ce que tu trouves ces photos?
Oh, tu tapes Tourist Trophy.
Voilà, sur Internet.
C'est des grands classiques.
Ouais, d'accord.
Ouais, sur Internet. Okay. C'est des grands classiques du Tourist Trophy parce que la moto est en l'air, justement.
Mm-hmm. D'accord. Alors, je passe sans transition au petit agenda que nous avons, là, parce qu'il n'y a pas trop d'événements dans les prochains jours, en tout cas à côté de chez nous. On commencera par ce qu'il y a le plus proche, c'est-à-dire les 27, 28 et 29 avril.
Ah oui, c'est proche.
Alors, à ton avis, qu'est-ce que c'est?
28, 29, alors attends.
En fait, il n'y a rien du tout.
Ah, c'est pour ça?
Et oui, voilà. C'est juste pour vous signaler. Parce que j'ai cru voir un panneau à un moment donné, ou une affiche, donc je ne sais pas si elle date d'il y a très longtemps ou pas. Ça m'a rappelé qu'il était prévu il y a très longtemps qu'ait lieu le salon du deux roues à Toulouse, les 27, 28 et 29 avril, justement. Donc, on sait depuis plusieurs semaines, si ce n'est pas un mois, que ça a été annulé, hein. Et que ça a été reporté, donc mi-mars 2008. Donc on vous le redira l'année prochaine, quand ce sera reporté pour 2009.
Pour l'année d'après.
Ouais, ok, ça
comme
marche.
Comme tous les ans, quoi.
Il a quand même eu lieu il y a 2 ans ici, je crois.
Ah.
Donc ça s'était passé, ouais.
Soyons pas mauvaise langue.
Non. Donc le même week-end, le 28-29 avril, si vous décidez de partir un petit peu vers Albi, vers Tarbes, vous allez pouvoir assister à un mini motostra, donc qui aura lieu à Tarbes les 28 et 29. C'est organisé par la FFMC Hautes-Pyrénées. Mini motostra, qu'est-ce que c'est? C'est la visualisation de tous les courts métrages qui sont passés en fait à la motostra normale,
mais sur un écran de téléphone. C'est une mini motostra.
Ils ont droit donc à une cinémathèque classique, donc sur grand écran. La particularité de ces mini motostras, c'est que c'est le public qui va choisir les meilleurs courts métrages. Le grand, entre guillemets, le grand motostra, lui, a lieu cette année les 7 et 8 juillet à Millau. Donc pour l'instant, on ne connaît pas encore les différents courts-métrages qu'on va pouvoir voir. Donc ça, ce sera d'ici au mois de mai, je pense qu'on aura la liste.
La programmation, ouais. Mais en plus, c'est sympa qu'elle se fasse à Millau, que ça descend un petit peu de Clermont-Ferrand.
Voilà, un petit peu, c'est plus proche de chez nous.
C'est plus proche de chez nous, voilà.
Et c'est vraiment très joli pour y aller, parce que l'année dernière, j'y suis allé, super, hein. Et c'est vraiment superbe, quoi. L'aller et le retour...
Juste faire gaffe avant d'arriver sur l'aqueduc, en fait, quand tu arrives et que tu vois l'aqueduc, l'espace
le
de
viaduc.
Pont, là, géant, le viaduc, voilà, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc juste avant d'arriver, juste avant que tu arrives sur Millau même, la ville, là, tu as une petite départementale, où il y a un putain de radar.
D'accord.
Et ça, c'est incroyable. Un radar sur une départementale. Et le panneau, il est au moins un kilomètre avant le radar. Du coup, du fait, tu n'y crois pas, quoi.
Ça me dit quelque chose, possible. Effectivement.
C'est une blague.
Tu te demandes où est-ce qu'il est.
Ça pour rigoler.
C'est vrai, c'est vrai.
Et en fait, voilà.
Donc voilà, à Tarbes, 28-29 avril, mini motostra. En fait, on va avoir droit à un pont dans 2 semaines, ou dans 1 semaine. Le pont du 1er mai. Donc, il y en a plein, ouais. Et donc là, sur ce premier pont, vous avez la bourse de Seyss qui va avoir lieu.
Ouais, au centre-ville, en fait, donc le 1er mai, jour de la fête du travail. Personne travaille sauf les boursiers. Les boursicoteurs, je sais pas comment on dit. Et donc c'est en centre-ville de Seyss, hein, dans Seyss Village, Gouret-Pin, hein, avec la grande maison qui a des murs vachement hauts, là, c'est pas là. C'est un peu après. Là où il y a la salle de spectacle, en fait, ils utilisent cette partie-là pour tout ce qui est les bourses, les gens de la bourse qui ont des objets un peu de ces genres, des compteurs, des trucs un peu fragiles. Ils préfèrent le mettre là et puis autour, dans le parc autour, il y a plein de pièces détachées, trucs divers et variés.
C'est pas spécialement moto ancienne ce coup-ci.
Si, c'est moto ancienne.
C'est moto ancienne, ouais. Toujours, d'accord.
Enfin, tout est relatif. C'est une moto d'il y a 2 ans, elle est ancienne quelque part. Donc tu trouves quelques...
On va trouver de tout.
Oui, on trouve de tout. Mais c'est quand même plus tourné vers le vieux brelon.
Donc il y aura de la japonaise et il y aura de l'italienne, quoi.
Oui.
De...
Voire même de l'allemande.
Voire même de l'allemande, il y a des chances. Alors là, on saute un petit peu parce que il y aura tous les week-ends de mai. Je ne sais pas encore ce qui va se passer. Je sais juste que on les a invités ici il y a 2 semaines. Ils sont venus nous présenter la journée de solidarité qu'ils organisent, Auto Moto Resto du Cœur. Ça te rappelle quelque chose ?
Je pensais à quelque chose.
Ah.
Ce week-end,
ouais.
À Cardi.
Ah, journée portes ouvertes.
La journée porte ouverte avec des motos de course qui sont exposées.
Exact.
Et les motos de course, tu vois, non, mais on se dit tout et on n'oublie rien. Ou l'inverse. Et donc oui, c'est ce week-end samedi, en fait, journée porte ouverte à Cardi de Portet.
Mm-hmm.
Et voilà quoi. Donc, c'est pour ça que je me permets de te couper avant que tu sautes au mois de mai.
Eh oui, donc je passe au mois de mai. Et donc l'association UIPSA là, de l'Université de Toulouse organise le 27 mai une journée de solidarité automoto pour les Restos du Cœur. Donc ça, c'est juste que tous les bénéfices qui seront faits ce jour-là seront reversés aux Restos du Cœur. Alors ils ont décidé d'organiser en fait une espèce de présentation des motos anciennes et également de faire des petits numéros
puis sur aussi place. Une approche de l'énergie en fait. Parce que bon, c'est quand même des scientifiques, c'est Paul Sabatier, ils nous font plutôt des mecs qui réfléchissent. Et donc, il fallait qu'ils trouvent un thème et ils ont opté pour énergie et je sais plus quoi. Énergie et déplacement ou un truc du genre.
Ouais, c'est énergie autour de la moto.
Ouais. Enfin, pas que de la moto, il y aura
pas
aussi
de
l'auto.
Et de la voiture.
Et ce qui est étonnant, c'est surtout qu'ils vont utiliser tout le site, en fait, de l'université.
Qui est quand même grand.
Qui est assez conséquent pour justement faire des baptêmes, je suppose, hein, avec des sides aussi.
Ouais,
et des motos.
Des voitures anciennes, voilà. Des motos.
Exactement. Et avec un trajet un peu particulier, puisqu'on ira de stand en stand en se déplaçant sur le site.
Et puis il va sûrement y avoir quelques engins étonnants comme. Tu sais, à Paul Sabatier, il y a des petits jeunes qui s'amusent, des futurs ingénieurs qui s'amusent à essayer de faire 3 millions de kilomètres avec un hiver d'essence. Enfin, tu vois, tous ces prototypes de machines profilées version suppositoire, là, avec des roues.
Exactement.
Et ils seront sûrement exposés aussi. Donc ça peut être sympa. Ce que me disait, en fait, Florian, qu'on avait reçu ici. Ouais.
C'est ça. Et sinon, je vous en parle maintenant parce que il faut s'inscrire maintenant si ça vous intéresse. Le 23 et 24 juin, donc ça a lieu dans 2 mois, mais il faut s'inscrire dès maintenant, aura lieu le rallye pédagogique et touristique de la FFM C31. Donc c'est un rallye qui où faudra payer 70 euros d'inscription pour partir, en fait, tout frais payé, se balader dans le sud de la France, dans les Pyrénées, montagnes noires et tout ça. Enfin,
ça coûte la pédagogie, dis donc.
C'est un rallye au livre de route, donc il y a des énigmes à trouver, il y a la route à trouver sur sa carte, il y a des petites épreuves pédagogiques, on va dire aussi, des petites épreuves théoriques. Très très joli. Je sors là de la reco le week-end dernier. On a fait plus de 500 kilomètres qui sont prévus
sur 2 jours.
Sur 2 jours, oui, bien sûr, hein, 250 kilomètres en moyenne chaque jour, et avec une petite spéciale éventuelle pour ceux qui se lèvent tôt le matin, le dimanche matin. La soirée, enfin la nuit de samedi a lieu en gîte. Donc c'est un repas en gîte, dodo en gîte, il y a pas de c'est pas le rallye au bord de la rivière dans la forêt qu'on a pu se faire ce week-end. Il y a des photos magnifiques, si jamais vous allez sur le site de la FFMC 31, vous verrez des photos de notre connaissance. Assez sympathique, un peu trappeur comme week-end, quoi.
Ouais.
Et ben voilà, je vous en dis pas plus. Si ça vous intéresse, inscrivez-vous. Des informations sur le site de FFMC31, ffmc31.free.fr. Et ce sera tout pour l'agenda d'aujourd'hui. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Je pense que c'est toi qui nous as amené la première chanson, The Pat.
C'est moi qui ai la première, ouais. C'est Hexagone de notre ami Renaud.
S'embrasse au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passe les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne. Des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie. Ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, ne dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre, on assassine un peuple et une liberté, au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. L'ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'Hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin ferment en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs Côtes-du-Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés de dindes marron. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants.
Mais oui, vous l'aurez compris, c'était pas très innocent cette le choix de cette musique.
Oui, totalement, un hasard.
Surtout venant de The Pat.
Un hasard.
Alors, vous êtes toujours dans les guidons de l'info, accompagné de vos trois motards qui seront peut-être un jour vos motards préférés, qui sait ?
Qui sait ?
Qui sait ? Alors, tu m'as dit quelque chose d'un peu bizarre, Yves, tout à l'heure. Tu m'as parlé de gants magiques. Ou c'est toi qui m'as dit ça, The Pat ? C'est toi qui as dit le mot magique ?
Ouais, magique, c'est The Pat.
Magique, c'est peut-être moi.
Ouais, ouais, tu vas. C'est quoi cette histoire de gants ?
Bon, on m'a rapporté donc, que sur l'émission, on a tout essayé dans Laurent Ruquier cette semaine.
On a tout essayé.
Voilà. Ils auraient représenté un gant avec une substance en gel à l'intérieur, qui, lorsqu'elle était choquée, se durcissait, et visiblement, tu voyais l'autre taper comme un sourd avec un marteau, la personne avait la main dans le gant, et ça ne se déformait pas du tout. Quoi. Donc j'ai essayé de trouver des infos sur Internet, malheureusement, j'ai rien trouvé, donc je ne sais pas encore si c'est commercialisé, si c'est à l'étude, mais effectivement, ce serait apparemment assez intéressant comme nouvel matériau. Quoi.
Ça veut dire que ce gant, si tu le mets, donc quand tu te casses la gueule, il faut que tu battes des mains sur le sol pour que ça durcisse, pour qu'au moment où tu vas râper, ça te fasse pas trop mal.
Mais en fait, visiblement,
en un choc,
le truc, quasiment instantanément.
Il suffirait à le faire durcir, peut-être.
Voilà, peut-être, ouais.
Tout à fait.
Effectivement. Mais dans ces cas-là, il pourrait aller encore plus loin, parce qu'il pourrait faire des dorsales en gel, qui fait que quand tu tombes sur le dos ou sur le côté de la hanche, toutes les protections, il pourrait les faire, avec ce gel. C'est quand même bizarre. Ça m'étonne pas, c'est possible, hein, parce qu'un choc fait forcément une transformation thermique.
Ouais,
tu vois,
regarde, donc, c'est comme ces espèces de produits là que tu casses, que tu mélanges pour chauffer ou pour la lumière.
Ouais, c'est ça.
T'as plein de gels comme ça où tu mélanges deux produits. Mm-hmm. Peut-être que le choc suffit à mélanger deux produits.
Peut-être.
Après que ce soit dur, pourquoi pas, ouais.
Non, parce que sur le choc, c'est bon.
Après, pour enlever le gant.
Ah oui,
faut l'ouvrir en deux, non ?
Parce qu'après, t'as plus de circulation sanguine en fait à l'intérieur. Mais t'as les mains qui sont serrées dans le gant.
Je pense pas qu'il se rétrécisse, quoi. C'est-à-dire, visiblement, il se durcit au moment du choc. Et après, tu dois attendre quelques minutes pour qu'il se réassouplisse. Et tu peux. C'est même pas jetable, quoi. Non, tu peux le réutiliser, visiblement.
Ah.
Donc à étudier. Après, est-ce qu'il aurait.
Le blouson auto-durcissant.
Tu vois, j'ai raconté ça une fois, la première fois que j'ai passé, donc juste après avoir passé mon permis, je suis allé m'acheter un blouson, au pas de la case, puisqu'ils étaient censés être moins chers. et je demande naïvement au vendeur si ça n'existait pas des blousons avec un matériau qui se durcissait avec la chaleur en fait. Il me disait, mais c'est quoi cette histoire ? En général, quand tu chauffes, ça ramollit.
Ça dépend, voir avec maman.
et donc voilà, donc il s'était bien foutu de ma gueule. Mais si ton truc, si t'arrives à trouver d'autres infos là-dessus, je suis preneur parce que.
Cherchons.
J'irai refaire un tour au pas de la case, me venger un petit peu.
Non, mais ça peut être assez intéressant quand même. Après, il faut voir combien de temps ça met
à durcir. Ouais.
Mais ils disaient pourquoi c'était utilisé ?
Ah, c'était des grandes motos. Ouais.
Ah, deux motos.
C'était spécifique moto, oui, apparemment.
C'était pour les motards, quoi, déjà.
Ah, bah parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a Capirossi qui court avec des gants hyper bizarres. Il a des gants cette saison-là en Grand Prix avec une énorme bosse sur le dessus. Et je ne sais pas ce que c'est ces gants. Et ça se trouve, c'est ce type de produit. C'est Spidi, là. Avec l'œil, là, tu vois, cette main, vous voyez.
Tu regarderas sur Internet, tu regarderas, et puis tu nous diras ça.
Ça se trouve.
Stalinien, tu parles de Rossi, puisque ce week-end
je
on était.
De Capir aussi, c'est presque son frère, c'est le même pays quoi.
Tu parlais de Capir aussi.
Je parlais de Capir aussi.
Non, moi je te parlerai de Rossi alors. Qu'est-ce qu'il a fait ce week-end?
Rossi, il a fait. Il en a chié le pauvre. Hein. C'était un dur week-end pour lui. Il est parti, il a fait la pole position du GP. Il est parti devant jusqu'au deuxième virage où là il s'est mis dans le gazon sans tomber. Hein, tu vois, juste il a trop élargi et puis là tout le monde est passé. Il s'est retrouvé 9e, il a remonté jusqu'en 5e position. Il a failli se remettre au tas en essayant de monter sur Barros. Et là après il a lâché l'affaire. Il avait des problèmes d'adhérence.
Ah mince.
Parce que j'ai beaucoup tapé dans les pneus pour faire 9e, 3e, tu vois, et vraiment y aller franco. Et du coup, la fin de Grand Prix difficile.
Parce que j'en connais un autre là sur ce Grand Prix qui avait les pneus qui glissaient quand même pas mal. À chaque fois qu'il essayait de revenir, il partait en dérive sur les virages en Ducati.
Stoner, tu veux dire?
Ouais, ouais.
Ah ouais, non, mais Stoner, c'est du. En fait, moi j'ai regardé aussi les qualifs. Attends, qualif, il était quatrième, mais c'était extraordinaire. Hein. C'était tout en dérive. Hein.
Ouais.
Donc c'est son style de pilotage. Puis je crois que la Ducati, elle a cette caractéristique.
Parce que son collègue, il roule pareil ou pas?
Capi, ouais. Capi ouais. Rossi, il roule pareil. Ouais.
C'est bizarre. Hein.
Ouais. Et puis encore, ça a l'air d'aller un petit peu mieux maintenant qu'il y a quelques saisons. Quand les Ducati sont arrivées, où elles étaient vraiment vraiment délicates.
Parce que justement, c'est, j'ai pas vu ce Grand Prix d'Istanbul là. Je revois un Grand Prix que j'ai vu de la saison dernière. Et effectivement, tu voyais à une époque où Rossi, c'était Stoner encore qui était en Ducati l'année dernière.
Non, c'était Capi, Rossi et Leandri, je crois.
C'est ça. Et donc du coup, quand ils se suivaient, tu voyais la trajectoire de Yamaha qui était super super bien lisse, nickel, qui suivait la courbe du virage. Et l'autre, qui en fait partait, tu voyais sur la même caméra, tu voyais le décalage qu'il faisait en fait dans la courbe en glissade.
Je pense que la montée des chevaux est pas du tout au même régime entre le V4 de chez Yam ou de chez Honda et le V4 Ducati. Je pense que le couple est beaucoup plus bas sur le Ducati, ce qui fait qu'en fait, quand ils sont en sortie de virage, au moment où tu arrives à la corde et où tu remets les gros gaz, toi, les chevaux arrivent plus vite sur la Ducati, la mettant en dérive plus facilement.
D'accord.
C'est quand même plus délicat. C'est exactement comme quand tu conduis un twin ou un 4 cylindres. Tu te fais surprendre souvent sur un twin parce que tu te dis, il n'y a que 2 cylindres, donc en fait, je vais ouvrir un petit peu moins le temps de comprendre. Et en fait, le problème, c'est qu'en ouvrant moins, tu es sur la plage de couple. Tu vois, où le couple est le maximum.
Force, ouais.
Même erreur sur un sidecar. Quand tu conduis un sidecar, que tu te dis faut pas ouvrir trop, ben en fait, en ouvrant pas trop, tu te retrouves dans la plage où tu as les chevaux qui arrivent. Donc tout ça, c'est vicieux.
Mm-hmm. Mais tu dois complètement détruire les pneus si tu commences à rouler en glissade constamment.
Ah, mais tu regardes, moi, où je vois le Guzzi, hein, parce que c'est quand même le truc que je roule dessus depuis tellement longtemps que je commence à connaître. C'est des moteurs qui n'ont pas énormément de chevaux. Dire par rapport à tous les 4 cylindres débridés de fou furieux, mais tes pneus ils durent à peine plus longtemps. Hein. Ouais. Quand tu arrives à tirer 10 000 bornes avec un pneu, c'est vraiment un pneu arrière, c'est que c'est Noël. Tu vois, alors qu'il n'y a pas de chevaux. Mais uniquement parce qu'en fait, oui, t'as le coup de piston vraiment dans le pneu à chaque fois. Sans parler du frein moteur. T'as vachement de frein moteur sur un bicylindre. Hein. Quand tu tombes en rapport, le truc, il. Et là, ouais, c'est ce Grand Prix. C'était beau, hein. C'était beau en 125, où t'arrivais plus à suivre. Parce que
ça se dépassait tout le temps.
C'était tout le temps, ouais. Tout le temps, et je passe devant. Moi, j'étais devant ma télé, pas très bien réveillé, parce que les 125, ils ont attaqué vers 11h, 10h30, un dimanche matin. Comme j'ai pas été voté, j'ai plus besoin de me lever. Et donc, 125, ça allait dans tous les sens. C'était belle arsouille avec la KTM motivée, la Kajiva qui était motivée. Kajiva qui revient quand même en GP. Ça fait quelques années qu'on les voit plus. Des Aprilia tour de bras, Kelconda, enfin bon. Plein de marques, plein de petits jeunes et qui arrêtent pas de se doubler, de repasser devant, de se faire l'intérieur, l'extérieur. Mais vraiment super. Je me dis, putain, ça commence bien, ça c'est un beau Grand Prix. Bon. Et 250 ils partent, et 250, mais je sais pas ce qu'ils avaient ce jour-là, peut-être qu'en Turquie, le soleil il tapait fort et tout, ils sont partis, mais comme des barbares. Et vas-y que je te parte, premier virage, tu te dis, mais c'est pas possible, ils vont pas tous passer là. Il y en a qui vont être obligés de s'en aller, ou je sais pas, et ils sont tous passés. Mm-hmm. Mais c'était un truc de fou, hein, vraiment très très beau. Et puis une belle arsouille entre Honda et Aprilia, en 250, où vraiment, d'un virage à l'autre, le Honda était devant, l'Aprilia était devant, Honda, l'Aprilia, Honda, Aprilia. C'est l'Honda qui est arrivé, et suivi par deux Aprilia. Et c'était très très joli. Et alors le 500, enfin le GP.
Et c'est encore monté en puissance alors du coup ouais, au niveau du départ.
Le GP c'était de la folie furieuse.
Parce que là j'ai repéré là qu'il y avait donc tu as dit tout à l'heure il y avait Rossi en pôle.
Rossi.
Edwards.
Ouais.
Pedrosa.
Stoner.
Capi.
Et le sixième, je sais pas.
Hayden,
ah ouais, voilà. C'est ça.
De Pugnet, lui, il était un peu loin derrière, en fait.
Non, il est huitième.
Huitième,
d'accord. De Pugnet. Il doit y avoir Barros entre les deux.
Non, il finit huitième aussi.
Il part huitième et il finit
huitième. Bon, ouais. Ça va, c'est bien.
Oui, il n'a pas perdu, il a gagné. Le ciel, c'est qu'il en manquait devant. Mais
il y avait Vermeulen derrière de Pugnet, quand même.
Ouais.
Donc, c'est bien.
Et ça part comme des fous furieux. Ça arrive au deuxième, premier virage. Bon, ça passe, mais tu sais, ils jouent un peu des épaules, ils sont habitués maintenant.
Ah, c'est pas sur le premier qu'il y a eu des soucis.
C'est
alors.
Sur le second.
D'accord.
Fait. Le second virage. Le premier, c'est un droite. Mm-hmm. Et c'est le celui d'après qui est un gauche, qui a l'air d'être un virage où t'es très en appui. Je sais pas si Jacques, il s'est bourré. Jacques était neuvième, hein, d'ailleurs, il me semble, au départ. Il était juste derrière son collègue de Pugnet, parce qu'ils sont tous les
exact.
Deux chez Kawasaki.
C'est ça.
Kawasaki, qui a deux pilotes français, quand même.
Il était sur troisième ligne, en tout cas, ouais.
Ouais.
Quatrième.
Quatrième ligne. Ah non, c'est pas ça. Quatrième, puisque c'est trois par ligne, 9, 10, donc il devait être dixième.
Ouais.
Et Jacques, je sais pas s'il s'est bourré au freinage.
C'est ce qu'ils disent hein, dans les journaux, ouais.
Ouais, parce que à l'image, c'est en fait.
Il était un peu trop confiant et il s'est planté sur le freinage. Du coup,
il se plante au freinage. Il en profite pour emmener les petits copains avec lui.
Alors il prend Pedrosa, Edwards et Vermeulen.
Et Vermeulen arrive à repartir.
C'est ça.
En
ouais.
fait, Vermeulen, il traverse le bac.
Un gravillon.
T'as dit qui?
Pedrosa, Edwards et Vermeulen.
Ouais. Et il traverse le bac à gravillon et il repart. Par contre, les autres, les motos, elles étaient empilées version hamburger, donc de toute façon, c'était cuit.
Elles ont glissé toutes les deux, tu m'as dit, c'est ça?
Ouais, elles ont glissé l'une sur l'autre, la Suzuki et la Kawa. C'était la Yamaha, pardon, et la Kawa. L'une sur l'autre, comme ça, c'était joli. Le vert, tu sais, au milieu du gravillon, c'était.
Une bonne fusion, c'est ça?
Bonne fusion, ouais. Peut-être qu'ils essaient de se reproduire pour créer une nouvelle marque. D'ailleurs, ce serait pas étonnant, avec Kawasaki et Yamaha. Ah non, c'est Suzuki et Kawa qui ont des trucs crochus. Là.
Un peu, oui.
Et banquiers, je crois. Bon, enfin, bref. Et là, ça met un peu le bazar. Ça met un petit peu le bazar, quand même, tout ce monde-là qui va au tas. Surtout que Jacques, il ne s'est pas relevé tout de suite.
Et ouais, il s'est cogné la tête, d'après ce que j'ai lu. Ouais.
Il est tombé sur le cul, en fait. Exactement. Il est passé. C'est très joli, hein, ralenti. C'est une belle figure, mais bon, faudrait pas qu'il la fasse trop souvent. Je pense qu'il regretterait. En fait, en percutant l'autre moto, sa moto, elle passe dessous. Elle couche la moto à
Pedrosa.
Non, la bleue, donc la Yamaha. Donc, qui c'est que tu m'as dit?
Il y avait Pedrosa, Edwards et Vermeulen.
Edwards.
D'accord.
C'est Edwards. Edwards qui est dans la même équipe cette année que Rossi.
Ouais. D'accord.
Elle se pose l'une sur l'autre comme ça, mais le problème c'est qu'au moment où il a percuté, lui il est passé par-dessus la moto à Edwards. Donc tu vois, il fait un vol plané par-dessus, il tombe sur le cul et pam, il se tape la tête.
D'accord.
Je pense que
il était de dos par rapport à sa trajectoire, quoi, en fait.
En fait, il était à l'intérieur, il a glissé, il a tapé comme ça, les motos elles ont fait ça, mais lui il est passé par-dessus.
Ouais.
Tu vois, il s'est encastré sous la moto qui était à côté de lui et il est passé par-dessus, il fait quand même une belle culbute. Et donc ça met un peu le bazar tout ça, et tandis que devant t'as Rossi, Stoner, Capi Rossi, Barros qui tirent la bourre comme ça. Donc il y a ce truc là au deuxième virage, et le virage d'après en tête, donc quasiment en même temps en fait, t'as Rossi qui se bourre et qui part dans les champs. Donc le temps qu'il revienne, lui, bah, il est 9e, ouais, je crois que c'est 9e. Et puis là, après, il attaque la remontée, et vas-y, que je te remanche dans tous les virages. Alors là, c'était pareil, hein, c'était beau, hein, c'était tout en travers.
Mm-hmm.
Toi, la moto qui sautille du cul au freinage et tout, enfin bon, c'était joli spectacle. Et tandis que devant, en fait, t'as Stoner qui part, mais qui part. vraiment qui part, quoi. Tu vois, un mi-grand prix, t'as ce tonnerre qui passe et puis t'attends 4 secondes avant que le deuxième, qui est Pedrosa, je crois.
Alors, Pedrosa, non, il a chuté,
non,
lui.
Oui, c'est...
Il y a un truc que j'ai pas compris, et que je... Enfin, comment il a fait Elias.
Elias.
Comment il a fait pour se trouver deuxième?
Eh ben, en fait, Elias, il double Capi. Il double Capi, il est devant. Capi le repasse, il se repasse, ainsi de suite. Et puis, petit à petit, Capi, il lâche un peu l'affaire parce que derrière lui, ça commence à bastonner. Et il voit, il sent Barros sûrement qui lui met la pression. Tu vois, et c'est vrai que ça, quand tu conduis, que t'entends une moto dans le dos, bon, à leur niveau, c'est pas des, tu vois, ils se laissent pas impressionner facilement. Mais quand même, quand t'entends derrière toi le moteur, un autre moteur que le tien, tout le temps dans ton dos, ça a tendance à un peu, et du coup, il a lâché un peu prise. Mm-hmm. Et il a pas réussi à le rattraper. Barros, il se fait manger, il mange.
Capi aussi, à un moment donné, ouais.
Ouais, il se retrouve quatrième, même cinquième, je crois. Il y a Rossi qui arrive comme un fou furieux. Qui commence à arriver dans ce petit terrain de jeu là où ils sont tous les trois en train de se passer, repasser, que je te passe, que je te pousse et tout. Et Rossi, il a quand même, il tape beaucoup dans ses pneus de cette remontée là, parce qu'elle est vraiment spectaculaire, hein. Il remonte en quoi, une dizaine de tours. Toi, il passe de 8 à 4, quoi. Mm-hmm. C'est quand même motivé, le garçon. Le problème, c'est qu'il a beaucoup tapé dans ses pneus et dans un pif-paf, là, un enchaînement gauche-droite. Il touche légèrement, alors je sais plus, je crois que c'est Barros, mais je lui mettrai pas ma tête à couper. C'est une Ducat en tout cas. Il la touche et là après il fait plus rien. Mm-hmm. Il se fait même redoubler par Depugnet, tu vois, qui est 8e. Il finit 9e, il me semble aussi. Donc tu vois vraiment là après on sent qu'il a arrêté, parce que là il a compris que ses pneus ils sont au bout et qu'il arrivera pas.
D'accord. Donc pour
il sauvegarde il essaie de finir à mon avis.
Pour le top là-dedans, c'est Elias, parce que il était pas du tout dans les trois premières lignes, il devait être dans la quatrième ligne, et il a remonté tout le monde, quoi.
Et en plus, il profite un peu de l'accident, mm-hmm. Tu vois, où il y a déjà, t'en as quatre qui d'un coup se retrouvent, trois qui sont aux pâquerettes, et puis un qui se retrouve à la bourre. Ouais. Donc il profite déjà pour remonter une ligne, mine de rien, c'est déjà pas mal. Et puis surtout, il a été persistant, quoi, tu vois, il a pas lâché l'affaire.
Je suppose que tu es content, non?
Ouais, bah oui, bien sûr, parce que 2 Ducat sur les 3 premières places, 4 Ducat, 3 Ducat sur les 4 premières places même, hein, puisque Barros, il est en Ducati. Mm-hmm. C'est pas le team officiel, mais c'est quand même une Ducat. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que les vitesses de pointe, les Ducati explosent, mais vraiment tout le monde, même Elias, hein, qui pourtant est en deuxième position, mais en vitesse de pointe pure, la Ducat, Stoner, il est à 297. Capi, il est à 296. Barros, il est à 295. Enfin, tu vois, ils se tiennent tous à 1 km heure. Mm-hmm. Et Elias, il est derrière à 280 km heure, quoi. Il se fait mettre 15 bornes dans la vue par les Ducat. Les Ducat sont vraiment des motos rapides faites pour ce type de circuit où la ligne droite, quand même, en Turquie, elle fait quasiment 900 mètres. Sur un circuit de 5 km 6 ou 5 km 7, c'est pas si mal, une grande ligne droite comme ça. Tu sens que c'est des motos rapides. Et c'est là où tu vois la différence entre un circuit comme la Turquie ou la semaine le mois d'avant, où ils étaient en Espagne. Mm-hmm. Où là, la ligne droite, elle fait 700 mètres.
Donc, pas le temps de monter en 200, vitesse.
Ouais.
Alors, ça veut dire que toutes les grosses teams, Ducat, Honda, Yamaha et Suzuki, là, ils sont très très proches les uns des autres.
Ouais, ils sont très
proches. En fait, Ducat,
de toute façon, ils restent.
Ducat est devant avec 61. Ouais. Honda avec 56.
Ouais, mais c'est pas beaucoup.
Donc, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Enfin, bon, à côté de ça, il y a eu très peu de grands prix encore. Donc,
ouais.
Donc ça change un peu la donne par rapport à ce que j'ai connu, moi, où on avait tout le temps la Yam devant et du Ducat derrière. C'est sympathique.
Ouais, alors moi j'ai connu avant ça la Honda et rien d'autre. Tu vois, donc en fait, c'est chaque fois, il faut du temps pour que les motos se préparent. Et puis une fois qu'elles sont bien affinées et tout, elles ont quelques années de gloire. C'est tout le temps comme ça, un petit peu.
Bien, ben après ce petit sprint pour Istanbul, je vous propose une deuxième petite pause. Cette fois-ci, c'est toi qui nous as choisi.
Ouais, j'ai un petit
Yves.
Morceau. Ouais.
Alors,
donc c'est un morceau de La Mine à l'autre, un groupe qui passe au théâtre du Pont Neuf cette semaine, donc place Azrak. Le morceau, c'est « À l'attention de ta silhouette ».
Supplémentaire
qui a vu de la lumière.
Alors il est venu. On vous l'avait présenté il y a deux semaines, il me semble. Donc c'est Pierre de l'asso.
L'association Mekaker, ouais.
Qui bosse aussi pour avec UPSA, c'est ça?
UPSA, oui, Mekaker, qui donc va se dérouler le 27 mai à l'université Paul Sabatier.
Donc c'était la journée de solidarité automoto pour les Restos du Cœur.
Voilà, c'est très important à préciser. On a besoin de monde, bien sûr. Et comme je disais à mes collègues, là, juste pendant l'animation musicale, on cherche des voitures de collection, enfin, des voitures qui sortent de l'ordinaire pour faire des baptêmes, ce type de balade sur l'université Paul Sabatier.
Donc si vous êtes motard et que vous nous écoutez, ou si vous êtes automobiliste et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à parler de cette journée-là, des amis à vous que vous connaissez ou que vous savez avoir des voitures un peu particulières.
Hein. Comment on te contacte si on veut participer?
Ben, oui, donc mon numéro de téléphone, je vais vous le donner en direct, c'est le 05 61 55 75 19. Sinon aussi on a fait un site internet, mais malheureusement il ne marche pas actuellement.
Oui, j'ai essayé d'y aller tout à l'heure. Là.
Et oui, il bug, et là, ça fait un souci parce qu'on a fait toutes nos affiches par rapport à ce site.
C'est asso-upsa.free.fr
http://asso.upsa.free.fr.
C'est ça.
Voilà, j'espère que ça va marcher prochainement parce que sinon on va être bien ennuyé.
Oui, ça c'est une sale blague.
C'est une sale blague, ouais, c'est l'informatique.
Donc je vous rappelle le numéro pour avoir des infos, pour vous inscrire. C'est le 05 61 55 75 19. Ok. Voilà.
Et plutôt des voitures, donc voitures anciennes.
Voiture, moto,
sidecar.
Ou sidecar, ouais.
On en parlait aussi, des sidecars, c'est l'occasion de faire des balades en sidecar, c'est impressionnant, paraît-il.
Non, mais tu sais, pareil que ceux qui font pas de sidecar, ils disent, ouais, le sidecar, ça a l'inconvénient de la voiture et de la moto. Ben, voilà, voilà. Non, ça en a les avantages.
Voilà, l'occasion de voir.
Donc voilà, le 27 mai sur le site de Paul Sabatier, les animations un peu particulières puisque les stands seront un peu sur tout le site,
sur le campus. Ouais, ouais.
Voilà. Donc ouais. N'hésitez pas à appeler ou à venir pour voir ce que c'est. Et si vous voulez participer à la journée, n'hésitez pas à appeler Pierre.
Il faut rappeler que tous les brousouf ramassés à cette case vont au Resto du Cœur. Donc en plus, c'est une bonne action.
Voilà. Exactement.
C'est quand même mieux qu'autre chose.
Que d'aller voter,
par exemple.
Non, message de The Pat.
Ce sera terminé.
Ce sera déjà fait, effectivement. Voilà. Je vais laisser la parole à Yves, parce que tu as vu un truc un peu particulier, toi, en comparaison avec les Européens, enfin les Occidentaux et le Japon au niveau des motos.
Ouais, j'étais surpris de voir qu'en baladant comme ça sur Internet, qu'il existait des petites cylindrées de modèles style Hornet, le Zephyr, qui d'habitude sont des 600 ou des 1000. Et il existe, visiblement, au Japon, ils ont vachement de petites cylindrées, style Hornet 250. Du coup, ça fait des petites cylindrées pas très chères. Et je me suis demandé pourquoi en France, on n'avait pas l'équivalent, voire en Europe. J'ai commencé un peu à pianoter. Et effectivement, c'est un marché destiné uniquement au Japon. Et je suis allé même un peu me balader parmi les scooters, voir ce qu'ils avaient comme équivalent entre 200 et 400, aussi comme cylindrée. Et pareil, ils ont peut-être un ou deux modèles, mais il y a vraiment pénurie, quoi. Alors que, visiblement, ça fait vraiment longtemps que ces petites cylindrées existent, quoi. T'en retrouves depuis 10 ans, donc de la Zephyr.
Plus que ça, même. Attends.
Plus que ça, oui.
Ah ouais, je crois que les taxes sur les grosses cylindrées, elles sont apparues dans les années 80.
Ça veut dire que, toi, The Pat, donc ce que tu dis, c'est que l'État, là-bas, a fait une loi.
T'as une surtaxe à partir
exprès pour,
de 400 ou
dissuader de prendre des grosses cylindrées,
ouais,
en fait, c'est ça.
Exactement.
Waouh!
Pour des histoires de pollution, pour des histoires d'encombrement, je sais pas trop.
Parce que quand Yves, tu m'en as parlé, moi, l'hypothèse que j'avais émise, c'est que le Japon c'est petit, peut-être pas besoin d'une grosse cylindrée pour faire tes balades au Japon.
La Suisse aussi, hein, pourtant ils achètent des grosses cylindrées.
Voilà.
Tu peux avoir besoin pour faire que de la ville, ta moto, et
bien sûr.
Plus la gamme est large, plus tu vas prendre le modèle en fonction, quoi.
Mm-hmm. Non, mais c'est des histoires de.
Et des pollutions, de c'est sûr, parce que ouais. Là, je me demandais, moi, là j'ai une 750. Et je me disais, mince, pourquoi pas une 900 ou éventuellement une BM 1100 ou 1200. Et quand j'ai vu la consommation...
T'as attaqué une banque ?
Ouais, j'ai attaqué une banque. Ah ouais. Ouais. Non, mais en fait, c'est dans mes rêves. Hein.
Ah ouais.
Et je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Je vais passer de 5 litres au 100 à 7 ou 7,5, voire 8 litres au 100, quoi. Donc, effectivement, si tu fais la même distance et que tu consommes presque une fois et demie plus,
c'est pas rentable.
La pollution, elle est là. Tu peux rien y faire.
Après, à l'achat, le prix des pièces et tout, tu t'y retrouves pas, quoi, si tu t'en sers pour faire quoi de la ville.
Et après, est-ce que c'est pas aussi dû au fait que, en Occident, on a toujours envie d'avoir une plus grosse que celle du voisin?
Mais elle est plus grosse.
Cette montée en puissance, en fait, qu'on a en France, on veut toujours avoir des gros chiffres. Tu vois, en France, par exemple, depuis 5 ans, quand les gens passaient leur permis, c'est toi qui me disais ça, quand on passe le permis, le jeune, avant, il allait quoi sur une CB500 habituellement.
En plus, même quand t'as moins de 21 ans, t'es limité à 34 chevaux, quelque chose comme ça.
Ouais, 34 chevaux.
Donc, tu te retrouves à
125 à Priya.
Ou
des 400.
Il y a des SV 650 qui sont bridés à 34. Hein.
Ah ouais, mais bon.
Ouais, mais voilà, quoi. Elles sont bridées.
Voilà. Mais tu vois rarement des gens qui viennent de passer leur permis, en fait, aller sur des CB500. Ils vont tout de suite sur les 650, donc Bandit maintenant, avec Bandit, avec le SV, avec... qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Ducati.
Ouais, enfin...
C'est
pas forcément tout de suite après le permis, après...
Ça dépend des moyens, parce que ça vaut un peu de sous, un Ducati.
Ça vaut un peu de sous, ouais.
C'est pour ça, d'ailleurs, parce qu'il a du caractère,
ouais. T'as même un Phaser 650, non, qui est sorti. Un FZ... non, ou alors 600.
600, je crois.
Voilà, ils vont tout de suite sur le 600, donc... Ouais, bah, c'est spécificité occidentale.
De toute façon, dans les petites gammes, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu as? T'as l'Estrella 250.
À part si tu vas prendre un enduro ou un
supermotard,
un supermotard, à la limite.
Là, tu es en 400. T'es en 400,
ouais. Les KTM, choses comme ça. C'est vrai. Mais voilà, mais... Le marché s'adapte aussi
à la population,
à la mode, à ce que veut le...
C'est une histoire de mode, voilà. Je veux dire, quand le CB750 il est sorti, tout le monde a GB1 750, quand le 900Z est sorti, bah, tout le monde roulait en 900, tu vois, enfin c'est lié en fait.
Là, la mode, c'est le 7,5 en ce moment.
La mode, c'est le 7,5, ouais.
Non, il y a le R6 aussi qui revient un peu à la mode, mais ça a fait l'année dernière quand même, c'est toi qui nous disais ça là, que celui qui avait gagné haut la main les ventes, c'était le ZR7 aussi.
Ouais.
C'est pour ça, ouais. Enfin, bah effectivement, peut-être que c'est une question de taille, je sais pas, les Japonais sont pas plus petits que les Européens.
Non, c'est vraiment des taxes, hein, des taxes de l'État. Et puis à assurer, c'est beaucoup plus cher et tout ça en fait, donc... Après, t'as aussi chaque pays qui protège son propre marché. Hein. Je veux dire, si en Europe on fait des motos qui sont grosses, et ben, ils préfèrent les vendre les grosses, tu vois. Les Italiens, ils font soit du toute petite cylindrée, soit de la grosse. Il y a pas d'entre deux non plus. Hein.
Mm-hmm. Ouais, mais c'est comme dommage parce que ça doit décourager les personnes qui se limitent d'un 125 ou parce que quitte à passer le permis, si de suite faut taper dans la 500, ils n'ont pas l'utilité. Je pense que si la gamme était plus large.
Parce que c'est quand même assez agréable à rouler sur un 400 qui a un bon couple, ouais, une basse vitesse. Non, t'aimes pas ça, toi, non?
Mais d'où tu veux sortir un couple d'un 400?
Moins 500.
T'as moins de poids, t'as moins de...
Ouais, mais t'as pas de couple.
Ouais.
Moi, j'aime le couple.
D'accord.
Moi, j'aime les tracteurs, comme les BM, les Guzzi, tu vois, ces trucs-là, ou les Ducat.
Parce que tu réduis énormément, tu descends énormément la courbe de couple, donc tu la mets dès les basses vitesses, ouais. Et tu seras juste limité en vitesse à la fin, quoi, donc...
Ouais, mais si tu vas sur des monos, le débit, tu réduis quand même.
Ouais. Mais du mono sur l'autoroute.
Mais voilà.
Le but, c'est pas d'aller sur l'autoroute.
Tu peux pas, effectivement.
Après, si c'est pour aller gratter à 5 km, ouais, c'est sûr que là, t'achètes un 125MZ. T'as roulé longtemps en 125MZ en ville, c'est très bien.
C'est super.
Et franchement, il n'y a pas.
Monocylindre.
Ça existe encore en neuf, ça?
Ça existe encore en neuf, mais en 4 temps maintenant.
Neuf maintenant, c'est en 4 temps.
C'est plus du tout le moteur.
Non,
ça n'a plus rien à voir. L'usine qui était en Tchécoslovaquie a été revendue en fait
en
Turquie, et c'est sorti sous la marque Canuni.
Ah oui, et après c'est passé à la Corée.
Ouais.
Dernièrement, c'est un Coréen.
Ouais, parce qu'en fait, il s'appelait MZ Canuni, et quand MZ, enfin Muse, c'est un peu compliqué cette histoire. Quand Muse a voulu racheter le nom MZ, Muse, c'était les Allemands qui avaient conservé l'usine où étaient à l'origine assemblés les MZ. Ils ont voulu racheter le nom MZ pour pouvoir produire des MZ, ce qui est le cas maintenant. Ils produisent des MZ, tu sais, des 4 cylindres, des super machines d'ailleurs, en 1000 je crois. Et quand ils ont racheté le nom, bah, les Turcs ils se sont retrouvés avec un truc qui n'arrivait plus à être homologué parce que ça polluait, et qui en plus n'avait même pas le nom pour essayer de les aider. Ils ont tout refourgué aux Coréens. Qui continue à produire en fait les deux temps du MZ, ETS, ETZ et tout ça, qui étaient des super motos.
Ah ouais. Il y avait un bicylindre de temps, je me souviens.
Mono cylindre.
Il y a eu un bicylindre.
C'est la Java.
Ah, c'est Java.
Java pas vite, mais Java pas loin non plus.
C'est pas loin non plus, ouais.
Mais ouais, c'est Java qui faisait la 350 California.
Ouais.
Et CZ aussi qui a produit quelques bicylindres.
Ouais. C'est une moto originale, ouais. Il y avait le Kick. Qui faisait aussi sélecteur.
Qui faisait sélecteur, ouais, ça c'est sur la Java.
Ouais.
C'est extraordinaire. Ouais.
Alors il nous reste encore quelques minutes pour cette dernière ligne droite. Je vais en profiter pour m'adresser 4 minutes, me dit notre ami technicien.
Je pensais qu'il nous faisait coucou.
Non, il nous faisait pas coucou, il nous faisait 4. Il lui manque pas le pouce, t'inquiète pas. Oui, je vais profiter de ces dernières minutes pour m'adresser en fait à ceux qui vont loin ou qui vont tout près, mais en faisant de grandes boucles pour se planter de chemin ou pour voir des corniches ou pour voir pour passer des cols les uns après les autres. C'est-à-dire ceux qui font des grosses balades en faisant beaucoup de tours.
Tu parles de quoi, des chômeurs?
Non.
Ah, je comprends bien.
Non, ceux qui veulent faire 600 bornes mais en ne se déplaçant que de 200 km à vol d'oiseau, tu vois. Et surtout ceux qui utilisent les GPS ou qui se demandent s'ils vont utiliser le GPS. J'ai découvert en fait en faisant la reconnaissance ce week-end du rallye de la FFMC31 que c'était vraiment génial ce truc quand tu l'associais avec les quand tu l'associais aux logiciels qui vont bien. Donc tu imagines que tu as un GPS par exemple et tu décides de d'enregistrer la trace du trajet que tu fais. C'est-à-dire que tous les 500 mètres ou tous les kilomètres, le petit GPS, il va pointer des coordonnées. Et puis comme ça, il va à la fin, tu vas regarder ton fichier, tu vas avoir une espèce de ligne.
T'arrives chez toi, il y a ta femme qui me fait « Toi, tu t'es arrêté chez Bébert, ou tu as fait des sports, ou tu as fait de la plage ?»
Ça laisse des traces.
C'est incroyable.
Tu laisses des traces, et c'est pour ça que ça s'appelle une trace. Bon, et ben, au final, tu te retrouves avec toutes les coordonnées enregistrées. Et si tu utilises un logiciel adapté, en fait, tu peux intégrer cette trace à des cartes qui existent déjà. Bon, là, je vais vous donner l'adresse en fait d'un bouquin qui est vraiment génial pour ça, qui coûte 20 € quand tu l'achètes en papier, mais qui est gratuit en format PDF. Quand tu utilises le logiciel adapté pour le visualiser, quand tu enregistres toutes ces informations, ben il y a un petit truc qui est sympathique qui s'appelle Google Earth. Vous avez sans doute entendu parler de ça, qui vous permet en fait de visualiser des cartes géographique vue de satellite. Et donc vous ouvrez votre fichier en fait sous Google Earth et vous avez votre trace, et quand vous zoomez, ben vous voyez votre trace qui suit les routes, qui suit vous voyez les différentes villes qui sont traversées, tous les waypoints que vous avez pu enregistrer pendant votre trajet.
Tous les quoi?
Waypoint. Des points particuliers, des points d'arrêt.
Ouais. Ah donc il doit y avoir un endroit où il y a la trace de ton pneu dans le gravillon sur le côté là-bas.
Oui, j'ai pu le repérer effectivement.
Ah d'accord.
Ouais. Et donc tu as cette trace là, et après t'as plus qu'à imprimer soit la totalité, soit des bouts de cartes, en décidant d'afficher les villes, d'afficher les villages, les choses comme ça. Alors, si vous connaissez pas trop le système, si vous êtes intéressé ou curieux, le bouquin il a été écrit par Luc Aebi. Et il est disponible donc sous format PDF à l'adresse suivante www.ilv-experience.net. Et là, en allant sur le catalogue, il vous suffira de choisir le bouquin qui s'appelle Découvrir l'univers du GPS, où il nous parle des différents logiciels qui sont utilisés. Il nous explique un historique et le principe du GPS. Il explique tous les termes, traces, points, waypoint et tout ça. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus, vous allez en apprendre vraiment pas mal. J'arrive à la fin de cette émission. Si vous voulez la retrouver, on vous l'a dit juste avant, ben, elle est rediffusée le jeudi à 13h, le dimanche à 23h. Et sinon, si vous n'avez pas la possibilité de l'écouter en direct ni en rediffusion, The Pad se charge de l'enregistrer et de le mettre sur le site des guidons de l'info.
Ouais, qui s'appelle http://lesguidons, avec un S, parce qu'il y a les, tout collé. Donc lesguidons.free.fr. Tout simplement.
Voilà, je sais.
Et c'est la page, pardon, excuse-moi, c'est la page émission, vous cliquez dessus, ça c'est juste pour énerver le technicien là. vous cliquez dessus, ça vous ouvre une nouvelle page, et puis là vous avez la date et l'émission enregistrée.
Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Hein.
Bye.